On va parler de ces journées très chaudes comme celle d'aujourd'hui et celle encore plus chaude demain, vendredi, et même une bonne partie du week-end aussi, avec le docteur Joanne Blais. Joanne, la différence entre chaleur accablante et canicule.
Bon, vous savez, Paul, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une chaleur accablante, on parle d'une température qui va tourner plus autour, je dirais, de 30 degrés avec un humidex peut-être de 40. Alors que si on dépasse ces chaleurs-là et que ça dure effectivement 3 journées consécutives, on se dit à ce moment-là que la température se situe entre 31 et 33 degrés le jour, entre 16 degrés et 20 degrés la nuit. Et ça, pendant 3 journées consécutives, là, on parle de canicule.
Oui. Mais ce qui est important aussi, on n'en parle pas souvent, c'est le minimum, c'est-à-dire la température qu'il va faire dans la nuit. Là, la nuit prochaine, à Montréal, un exemple, minimum 22 degrés. Ça, à prime abord, c'est confortable. Sauf que si la température a dépassé largement le 30 degrés toute la journée et puis qu'on n'a pas eu de circulation d'air, là, ça devient pénible la nuit aussi.
Exactement, puis vous amenez un point très important parce qu'on oublie souvent d'en parler de ça, mais c'est sûr que le fait que la nuit, normalement, on va donner comme conseil aux gens, bien le soir, ouvrez vos fenêtres pour rafraîchir la maison, mais s'il fait 22 degrés, on n'aura pas beaucoup de fraîcheur, ça ne sera pas suffisant pour repartir la journée en disant on ferme les fenêtres, on baisse les stars et on garde la fraîcheur de la maison si on n'a pas de climatisation autrement. Là. C'est ce qui nous attend pour les 3 prochaines journées, c'est qu'on va avoir des nuits plus chaudes que ce qu'on aurait besoin.
Quelles sont les manifestations de ce qu'on appelle le coup de chaleur?
Bien, il faut dire, Paul, que quand on parle d'un coup de chaleur, c'est qu'on parle que la température corporelle est en haut de 40 degrés Celsius. Donc, c'est comme si notre corps bouillait un peu. Et quand il fait très, très chaud, notre corps transpire beaucoup. Donc, c'est une façon de maintenir les mécanismes, on appelle ça de la thermorégulation. Là, ça nous permet de maintenir une température qui va faire en sorte que notre cerveau, notre cœur, nos reins vont bien fonctionner. Et c'est pour ça que lorsqu'on transpire beaucoup, bien, si on boit suffisamment, l'équilibre se fait, donc il n'y a pas de danger pour nos fonctions vitales. Lorsqu'on fait un coup de chaleur, c'est qu'on arrête de transpirer parce que la température a dépassé la capacité de notre corps de se réguler. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le cerveau envoie le message, on a un corps parfait, hein? Le cerveau envoie un message au corps de dire « ne transpire plus parce que je veux tout garder, le peu qui me reste de régulation pour le cerveau puis les reins. » Et si on continue à être dans cette température-là, bien là, le cerveau n'est plus capable de contrôler. Et là, il arrive toutes sortes de manifestations de symptômes qui peuvent aller jusqu'à la mort si on n'a pas de traitement, là.
Et vous avez dit, justement, c'est un symptôme, ça, du coup de chaleur, lorsque le cerveau commence à disjoncter un peu, on semble avoir perdu tous les repères, avec un peu comme si on était sur le bord de perdre connaissance, quoi.
Absolument. Mais juste avant ça, le cerveau va nous envoyer quand même des messages. La première chose qu'il fait, c'est qu'il nous arrête de transpirer. Donc, si on est des gens, parce que là, il y a des auditeurs qui pourraient nous dire « oui, mais moi, je transpire jamais », ça, c'est une autre chose, parce qu'il y a des gens qui ne transpirent pas. Mais les gens qui sont habitués de transpirer beaucoup, qui soudainement arrêtent de transpirer et qui continuent à être dans un environnement très chaud, bien c'est un des premiers signes de dire ça va pas bien, ma température corporelle est rendue trop haute. À ça, on ajoute des maux de tête, des étourdissements, de la fatigue, évidemment une soif intense. On peut gonfler des mains puis des pieds, avoir des nausées. Et dans les indices les plus significatifs, c'est on boit, mais on n'urine pas. Donc ça, c'est un indice que notre thermorégulation ne se fait pas bien. La peau va devenir très sèche au lieu d'être moite et on va se mettre à respirer très rapidement. Donc ça, c'est vraiment des symptômes qui nous disent le coup de chaleur s'en vient.
Alors voilà donc, comment prévenir ce coup de chaleur? On en a eu quelques exemples que vous avez mentionnés, mais l'hydratation semble la priorité.
Absolument. Il faut toujours penser qu'on ne doit pas, à des températures comme on a aujourd'hui, attendre d'avoir soif parce qu'il est déjà un peu tard. Donc, il faut prendre 6 à 8 verres d'eau ou de boisson fraîche par jour. On évite de consommer caféine et boissons alcoolisées parce que c'est des éléments qui augmentent la déshydratation. Et évidemment, c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais de prendre une douche ou un bain frais chaque jour, de rafraîchir notre peau plusieurs fois par jour avec une serviette mouillée, puis de passer au moins 2 heures par jour dans des endroits qui sont frais ou climatisés, qu'on pense aux centres commerciaux, aux bibliothèques, aux endroits qu'on sait à l'avance que la ville offre. Habituellement, la ville va ouvrir des endroits pour dire aux gens, il fait trop chaud, rendez-vous.
des points de rencontre. Et la mairesse Valérie Plante a dit que cette année, Montréal était prête à faire face à cette période de chaleur. On sait que l'an dernier, début juillet, on a relié 66 cas de décès liés directement à la chaleur. Et évidemment, première et dernière pensée, Joanne Blais, ne pas oublier les personnes seules.
Absolument. Et ça, moi, je dis toujours aux gens puis à ma famille, il faut rester en contact. Moi, je regarde les voisins. J'ai des voisins qui sont plus âgés. S'ils n'ont pas accès à la climatisation, je vais leur offrir de venir parce que c'est important. Et la même chose pour les enfants. C'est vraiment pas le moment de laisser un bébé ou un enfant dans une voiture, même si les fenêtres sont ouvertes ou dans un endroit qui n'est pas climatisé, parce que ça prend pas de temps à un bébé pour se déshydrater. Et j'ai une petite pensée aussi, j'avoue, Paul, pour les animaux de compagnie. Il faut pas les oublier non plus.
C'est vrai, on n'y pense pas, mais ils ont chaud aussi.
Oui, il faut leur laisser de l'eau proche au moins pour qu'ils puissent se déshydrater. Et c'est vraiment pas le moment d'aller s'entraîner à des températures comme ça, surtout en plein milieu de la journée. On choisit très tôt le matin ou plus tard le soir, mais une heure comme ça, là, c'est encore trop chaud pour pouvoir faire des grandes activités.
Oui, je sais qu'il y a des gens qui s'entraînent pour le marathon, par exemple le marathon de Montréal, qui est généralement à la fin de l'été, presque au début de l'automne, et qui disent au contraire, c'est un test d'endurcissement et tout ça. Non, il faut faire vraiment attention, là. Allez courir votre 20 ou 30 kilomètres dans des températures de 30 degrés et plus, vous risquez d'avoir des surprises.
Bien, c'est vrai qu'il y en a. Si on est habitué, il faut quand même le faire plusieurs semaines à l'avance, à faire des petites distances avant de faire une distance de 30 km à 32 degrés, mettons.
Merci beaucoup, Dr. Blais.
C'est un plaisir, Paul.
Au revoir, Joanne, et à demain. Au retour, ce sont nos chroniqueurs, avec notamment Lise Ravary et François Gagnon. Et puis, bien d'autres choses encore à venir. Anaïs Favron passe la dernière demi-heure avec nous.